الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Priez avec khushu. Invocation d'Attar. Ô Seigneur de Mustapha, sallallahu alayhi wa sallam, quiconque lit ou écoute le livret, priez avec khushu, accorde-lui la joie de la prosternation, accepte toutes ses prières, et accorde-lui la bonté dans les deux mondes. Amin, bijahi khatamin nabijin, sallallahu alayhi wa sallam. Vertu de la salat sur le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Le jour du jugement, les actions du musulman deviendront légères sur la balance. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, sortira un morceau de papier et le placera à côté des bonnes actions, ce qui alourdira la balance. La personne demandera, « Que mes parents soient sacrifiés pour vous, qui êtes-vous ? » Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, répondra « Je suis ton prophète, Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, et ceci est la salat que tu as envoyée sur moi. » Sallu ala al-habib, sallallahu ala Muhammad. Définition du khushu. Le khushu est défini comme l'action du cœur et des membres. L'action du cœur consiste à garder à l'esprit la grandeur d'Allah, à éviter les distractions du monde et à prier de tout cœur. L'action des membres consiste à se tenir calmement, à ne pas regarder ici et là, à ne pas remuer le corps ou les vêtements et à ne pas accomplir d'actions inutiles. Le khushu est recommandé pendant la prière. Alama Badruddin Aini rahmatullah alayh a déclaré « Le khushu dans la prière est recommandé, c'est-à-dire mustahab. » L'imam d'Al-Sunnah, imam Ahmad Reza Khan rahmatullah alayh a écrit « L'excellence, la lumière et la beauté de la prière dépendent de la compréhension, de la réflexion et de la présence du cœur, c'est-à-dire du khushu. » Ce qui signifie qu'une forme élevée de la prière est celle qui est accomplie avec khushu. Le Coran stipule « Qad aflaha al-mu'minun alladhina hum fi salatihim khashi'un » Traduction. « Certes, les croyants ont atteint leur but, ceux qui sont humbles dans leur prière. » Il est écrit dans le volume 6 du Tafsir Siratul Jinan, ce verset donne les bonnes nouvelles aux croyants que, grâce à la bénédiction d'Allah, ils réussissent dans leur but. Ils demeureront éternellement au paradis et seront protégés de tout ce qui est indésirable. Par ailleurs, on peut lire « Les croyants accomplissent la prière avec khushu et khudu. » À ce moment-là, les cœurs sont remplis de la crainte d'Allah et leurs membres sont immobiles. Accomplir la prière malgré le feu. Sayyidona Muslim bin Yasar rahmatullah alayh fait partie des pieux prédécesseurs. Il accomplissait la prière avec une telle attention qu'il ne se rendait pas compte de ce qui l'entourait. Un jour, alors qu'il était en train de faire la prière, un feu se déclara sans qu'il s'en rende compte et s'éteignit. Quatre récits courts. Numéro 1. La mère des croyants, Sayyidatuna Aisha radiallahu anha, a mentionné que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, leur parlait. Et elle lui parlait. Mais au moment d'accomplir la prière, c'était comme s'il ne les connaissait pas et qu'elle ne le connaissait pas. Numéro 2. Le premier calife de l'islam, Sayyidina Abu Bakr Siddiq, radiallahu anhu, se tenait dans la prière comme un clou fixe. Numéro 3. Certains nobles compagnons, alayhimu ridwan, étaient si immobiles lorsqu'ils s'inclinaient dans la prière pendant le ruku que des oiseaux se posaient sur eux comme s'ils étaient des objets inanimés. Numéro 4. Certains nobles compagnons, alayhimu ridwan, ont dit que les gens seront relevés le jour du jugement en l'état de prière. Ce qui signifie qu'une personne sera relevée en fonction du niveau de paix et de sérénité qu'elle gagne grâce à la prière. Allah ne regarde pas vers cette prière. Allah ne regarde pas la prière dans laquelle le cœur d'une personne n'est pas présent aux côtés de son corps. Pleure dans la prière. Chaque fois que Sayyidina Sa'id Tanouri rahmatullah alayh accomplissait la prière, il pleurait tellement que sa barbe se mouillait par les larmes qui coulaient sur ses joues. Qu'est-ce que le khushu intérieur et extérieur dans la prière? Le khushu dans la prière peut être visible et dans le cœur. Le khushu visible consiste à observer toutes les règles de la prière. Par exemple, ne pas regarder au-delà du tapis de prière. Ne rien regarder du coin de l'œil. Ne pas regarder vers le ciel et ne faire aucune action inutile. De même, il ne faut pas suspendre un tissu sur ses épaules en laissant pendre ses deux côtés. Toutefois, il n'y a pas de mal à ce qu'un côté soit suspendu et l'autre sur l'épaule opposée. Il faut également s'abstenir de se faire craquer les doigts et d'autres actes de ce genre. Le khushu intérieur consiste à se concentrer sur la magnificence d'Allah Azzawajal, à écarter de son esprit toutes les pensées mondaines et à accomplir la prière de tout cœur. Comment devons-nous prier? À la page 30 de l'ouvrage Adab et Din de Maktabatul Madina, il est déclaré « Celui qui accomplit la prière doit prier avec un cœur attentif et le khushu et le khudu. Essayez de vous protéger des chuchotements du diable. Priez en observant les dimensions intérieures et extérieures de la prière. Gardez vos membres à l'aise et votre regard baissé. Placez votre main droite sur votre main gauche lorsque vous êtes debout. Réfléchissez à la récitation du Coran, prononcez le takbir avec crainte et accomplissez les ruku et les sujoud avec humilité. Récitez le tasbih avec révérence, c'est-à-dire Subhana Rabbiyal Azim wa Subhana Rabbiyal A'la. Récitez le tashahhud comme si vous voyiez Allah. Faites le salam dans l'espoir d'obtenir la miséricorde d'Allah. Revenez ensuite dans la crainte de ne pas savoir si votre prière est acceptée ou non. Et cherchez toujours à atteindre l'agrément d'Allah Azzawajal. La manière d'accomplir la prière de Hatim Asam. Hatim Asam, rahmatullah alayh, fut interrogé sur sa prière et il dit « Lorsque c'est l'heure de la prière, j'accomplis le voudou, puis je m'assois à l'endroit de la prière jusqu'à ce que tout mon corps soit à l'aise. Ensuite, je me lève pour la prière et j'imagine la Kaaba devant moi, le pont de Sirat sous mes pieds, le paradis à ma droite, l'enfer à ma gauche et l'ange de la mort derrière moi. Je pense que cette prière est ma dernière. Puis, dans un état mixte d'espoir et de crainte, je prononce le takbir pour la prière et récite le Coran solidement. Le ruku est accompli avec humilité et le sujoud est accompli avec khushu. Je m'assois sur mon pied gauche et je lève mon pied droit. Bien que priant avec une grande sincérité, je crains de ne pas savoir si ma prière a été acceptée. Qu'Allah Azza wa Jal lui fasse miséricorde et qu'il nous pardonne sans avoir à rendre de compte par son entremise. Amin, bijahi khatamin nabijin, sallallahu alayhi wa sallam. Sallu ala al-habib, sallallahu ala Muhammad. L'entrée au paradis. Sayyiduna Uqba bin Amir, radiyallahu anhu, dit avoir vu le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, debout et informant les gens que le paradis devient obligatoire pour le musulman qui accomplit correctement le wudu et accomplit deux unités, c'est-à-dire deux raka'at de prière, avec son état intérieur et extérieur entièrement concentré sur elle. Signification de « le paradis devient obligatoire ». Élaborant sur la partie du hadith qui dit que le paradis devient obligatoire, le mufti Ahmadiyar Khan rahmatullah alayh a déclaré « Le paradis devient obligatoire par la bénédiction et la grâce d'Allah, grâce auquel l'individu reçoit la capacité d'accomplir de bonnes actions dans ce monde, reste ferme dans sa foi au moment de la mort et affronte la tombe et la résurrection sans difficulté. » Le hadith ne signifie pas que celui qui fait le voudou et accomplit deux unités de tahiyatul voudou est destiné au paradis et n'a plus besoin d'accomplir de bonnes actions. Les hadiths formulés de la sorte signifient plutôt ce qui est expliqué précédemment. La prière avec khushu est une expiation des péchés. Le troisième calife de l'islam, Sayyiduna Usman bin Affan radiyallahu anhu, dit avoir entendu le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, dire que lorsque l'heure d'une prière fard arrive, si tout musulman accomplit correctement le wudu et accomplit sa prière avec humilité et un ruku correct, cette prière sera une expiation pour ses péchés passés tant qu'il n'aura pas commis de péché majeur. Et ceci s'explique à toutes les époques et n'est pas spécifique à une époque. L'inclinaison se réfère à l'ensemble de la prière. Commentant ce hadith, Allama Abdul Raouf Manavi rahmatullah alayh écrit que le ruku se réfère à toutes les parties de la prière, c'est-à-dire le fait d'accomplir toutes les parties de la prière correctement avec humilité. Accomplir toutes les parties de la prière correctement signifie accomplir chaque partie complètement tout en adhérant à la sunna, etc. La prière devient une expiation pour les péchés mineurs, pas pour les péchés majeurs. Les péchés majeurs ne sont pas pardonnés par la prière, car les exigences du repentir doivent être remplies. Cela ne signifie pas que les péchés mineurs ne sont pardonnés qu'une fois les péchés majeurs pardonnés. Les péchés mineurs sont pardonnés même si l'on ne s'est pas repenti des péchés majeurs. Et ce processus de pardon n'est pas limité à une époque. Ainsi, s'il commet des péchés mineurs tous les jours, ma'adallah, mais qu'il accomplit également la prière fard correctement, cette dernière devient une expiation pour ses péchés mineurs passés. Péché délibérément. Ô vous qui cherchez à vous repentir, Ce n'est pas parce que la prière est une expiation pour les péchés mineurs que vous devez considérer cela comme un feu vert pour commettre autant de péchés mineurs que vous voulez, ma'adallah, en pensant que vous serez pardonné tant que vous priez. Notez que le fait de commettre un péché mineur en le considérant comme mineur est en fait un péché majeur. Dans certains cas, considérer un péché mineur comme insignifiant relève de la mécréance. Pour en savoir plus, écoutez les questions et réponses suivantes tirées des pages 385 à 396 du livre Kufriya Kalimat ke bareme sawal jawab. Définition du péché. Question. Quelle est la définition du péché? Quels sont les péchés mineurs et majeurs? Réponse. Maulana Sayyid Muhammad Naimuddin Muradabadi Rahmatullah Alay écrit à propos du verset 32 de la sourate An-Najm الَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشِ. Traduction, ceux qui s'abstiennent des péchés majeurs. Un péché est une action dont l'auteur mérite d'être puni. Certains savants disent que le péché est l'action qui prive de récompense, et d'autres disent que le péché est un acte inadmissible. Le mufti, Muhammad Jalaluddin Amjadi Rahmatullah Alayh, déclare: négliger une fois un acte wajib est un péché mineur à condition de ne pas avoir été excusé selon la charia. Il s'agit par exemple de ne pas faire la prière en congrégation, de se raser la barbe, etc. Un péché mineur devient un péché majeur s'il est accompli avec persistance, c'est-à-dire israr. Le shirk, le kufr et tout acte définitivement interdit sont des péchés majeurs. Ne pas accomplir une obligation définitive, comme la prière, le jeûne, la zakat, est également un péché majeur. Wallahu ta'ala a'lam. Commettre des péchés mineurs avec israr, c'est-à-dire persistance. Question. Un péché mineur devient un péché majeur s'il est accompli avec persistance, israr. Qu'entend-on par israr? Réponse. L'israr signifie s'attacher fermement, devenir ferme et être inséparable. Les avis divergent quant à la signification de la persistance dans le péché. Le cheikh Abdul Haq Muhaddis Tehelvi Rahmatullah Alayh a dit: certains savants disent que la persistance serait de pécher continuellement et de ne pas ressentir de peur dans le cœur. Selon Fatawa Shami, la persistance consiste à commettre des péchés mineurs de manière répétée sans se soucier du péché. Se repentir d'un péché mineur permet de sortir de l'état d'israr. On rapporte de Sayyidina Abu Bakr Siddiq radiallahu anhu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui s'est repenti n'a pas été persistant dans son péché, même s'il revient à son péché 70 fois par jour. Le mufti Ahmad Yar Khan rahmatullah déclare à propos de ce hadith: cela ne s'applique qu'à celui qui, au moment du repentir, est fermement décidé à s'abstenir de commettre des péchés. Si, au moment du repentir, il a l'intention de continuer à pécher, il ne s'agit pas du repentir, mais plutôt d'une moquerie à l'égard de l'islam, ma'adallah. Croire que le péché est permis. Question. Comment est-ce de considérer qu'il est permis de pécher? Réponse. Croire qu'un péché mineur ou majeur est permis est de la mécréance, c'est-à-dire kufr, s'il est prouvé que c'est un péché à partir de sources définitives, c'est-à-dire versets coraniques, hadith mutawatir, c'est-à-dire les hadiths transmis en masse, ijma' de la umma, c'est-à-dire le consensus de l'umma. De même, considérer un péché comme léger est de l'incrédulité. Les frères recherchant la miséricorde d'Allah. Préoccupez-vous de protéger votre foi. Si, qu'Allah nous en préserve, nous mourrons en tant que mécréants, nous serons ruinés. Nos pieux prédécesseurs, rahimahumullah, ont pris de grandes mesures pour protéger leur foi. Voici deux incidents qui en témoignent. Numéro 1, la mort avec la foi. Habib Ajmi, rahmatullah alayh, a dit: celui qui meurt sur la ilaha illallah entrera au paradis. Il se mit alors à pleurer et dit: qui peut garantir que je mourrai avec foi? Numéro 2. Quitter l'enfer après 1000 ans. Hassan Basri rahmatullah alayh a dit avoir vérifié qu'il y aura un homme qui quittera l'enfer après 1000 ans. Il souhaitait que cet homme soit lui, car il saurait alors avec certitude que l'enfer n'est pas sa demeure éternelle et qu'il mourrait avec foi. Après avoir raconté cet incident, Cheikh Abdul Wahhab Sha'rani rahmatullah alayh a dit: ô frère, n'occupe ton nafs dans les affaires du monde que selon les besoins de ta foi. Il se peut que tu meures dans un état d'insouciance et que tu fasses face à la perte dans les deux mondes. Wal'iyadhu billah. Le sujet depuis Kufriya Kalimat ke bareme sawal jawab se termine ici. il a été présenté avec des modifications mineures. Sallu ala al-Habib, sallallahu ala Muhammad. Les efforts individuels d'un oncle. Chers frères en islam, associez-vous à l'environnement islamique de Dawat Islami afin de développer un état d'esprit de crainte de l'enfer et d'abstention du péché. Ce qui suit est un récit mentionné à des fins d'encouragement. Un frère en islam de Faisalabad, au Punjab, au Pakistan, se noyait dans les péchés avant de rejoindre Dawat Islami. Il désobéissait à ses parents, les perturbait, dérangeait ses voisins et regardait des films et des séries. Écouter de la musique était son passe-temps favori. En raison de ses mauvaises fréquentations, il était alcoolique et toxicomane. Son oncle, qui était affilié à Dawat Islami, s'en rendit compte et fit tout son possible pour aider son neveu. Un jour, il convainquit son neveu de l'accompagner au rassemblement hebdomadaire. Après le rassemblement, il envoya son neveu avec les frères pour un Madni Qafila de 3 jours. Grâce aux bénédictions de cette bonne compagnie, en 3 jours, il apprit la méthode du voodoo, du roussl, de la prière et bien d'autres choses encore. Il eut honte de ses péchés et se repentit. Impressionné par le bon caractère et la gentillesse des gens, il se rendit à Gujarat pour participer à une formation de 63 jours. Sallu ala al-Habib, sallallahu ala Muhammad. Piqué 40 fois par un scorpion pendant la prière. Sayyidullah Abdullah bin Mubarak rahmatullah alayh a mentionné qu'il se souvient très bien d'une femme extrêmement pieuse qu'il a vue durant son enfance. Elle était en train de prier lorsqu'un scorpion la piqua 40 fois, mais cela n'affecta en rien sa prière. Lorsqu'elle eut terminé, il lui demanda pourquoi elle n'éloignait pas le scorpion. Elle répondit « Cher fils, tu n'es qu'un enfant. Comment pouvais-je faire cela? J'étais occupée par une affaire qui concernait mon Seigneur. Comment aurais-je pu faire ce qui me concernait? Ne fermez pas les yeux pendant la prière. » Abdullah bin Abbas radiallahu anhuma rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Lorsque vous vous tenez pour la prière, ne fermez pas les yeux. » Allama Abdul Raouf Manavi rahmatullah alayh écrit à propos de ce hadith que garder inutilement les yeux fermés pendant la prière est légèrement déconseillé, c'est-à-dire « makruh tanzihi ». Cependant, si cela augmente le khushu et aide le cœur à rester concentré, fermer les yeux n'est plus déconseillé. Quand est-il préférable de fermer les yeux? Il est écrit dans Bahari Shariyat qu'il est makruh tanzihi de fermer les yeux pendant la prière. Cependant, si l'on ne peut pas se concentrer avec les yeux ouverts, il n'y a pas de mal à les fermer. Il est même préférable de le faire. Regardez autour de soi pendant la prière. Tourner le visage ici et là pendant la prière et regarder autour de soi est makruh tahrimi, c'est-à-dire interdit et un péché. Avoir des regards latéraux ici et là inutilement sans tourner le visage sont makruh tanzihi. Si cela se produit rarement, pour une raison valable, il n'y a pas de mal à cela. Regarder vers le ciel pendant la prière est également makruh tahrimi. Faire la prière comme si tu vois Allah. Il est indiqué dans un hadith, dans Bukhari, que l'ange Jibril alayhi salam alla voir le prophète sallallahu alayhi salam et demanda « Qu'est-ce que l'ihsan ?» Le prophète sallallahu alayhi salam répondit « An ta'budallaha ka'annaka tarahu, fa illam takun tarahu fa innahu yaraka » C'est-à-dire que l'ihsan consiste à adorer Allah comme si tu le vois. Et si ce n'est pas possible, sache qu'il te regarde. Allah nous regarde. Ô amoureux de la prière, l'adorateur doit adorer comme s'il voit Allah. C'est un rang spécial pour les serviteurs uniques d'Allah. Nous demandons à Allah de nous accorder ce rang. Cependant, c'est aussi un honneur de se rappeler dans la prière et les autres adorations qu'Allah nous regarde. En fait, cet état d'esprit devrait être maintenu à chaque instant de notre vie. En effet, Allah nous regarde tout le temps. Cela nous permettra de nous abstenir de péché, Inch'Allah. Le Coran déclare « Inna Allah kana alaykum raqiba » Traduction « Certes, Allah vous regarde tout le temps. » Comment est-ce de dire « Allah regarde depuis le ciel » Ô vous qui craignez Allah, sachez que le Tout-Puissant vous regarde en permanence. Il est essentiel de garder à l'esprit qu'Allah est exempt de tout lieu et de toute direction. À cet égard, notez ce qui suit, tiré des pages 104 à 109 de Kufriya Kalimat ke bareme sawal jawab. Question. Pour effrayer quelqu'un qui regarde des choses indécentes, est-il permis de dire « Allah te regarde depuis le ciel » Réponse. Non, cela ne peut être dit, car il s'agit d'une déclaration de mécréance. C'est écrit dans Fatawa Alamgiri, volume 2, page 259, C'est de la mécréance que de dire Allah regarde du ciel ou du trône, le Arsh. Pour que quelqu'un regrette ses péchés, vous pouvez lui conseiller de dire Allah regarde. Le Coran stipule ce qui suit. Alam ya'lam bi anna Allah yara. Traduction. N'a-t-il pas su qu'Allah le voit? Mieux qu'accomplir 1000 Hajj. Chers frères en islam, si seulement nous faisions toujours attention au fait qu'Allah nous regarde, cela nous protégera de commettre des péchés. L'imam Abul Qasim Kushairi rahmatullahi a dit que Sayyidina Husri rahmatullahi avait l'habitude de dire « S'asseoir une fois est mieux que 1000 Hajj ». Cela signifie que vous devez concentrer toute votre attention sur la visualisation de votre présentation à Allah et reconnaître qu'il vous regarde. Qu'Allah Azza wa Jal lui fasse miséricorde et qu'il nous pardonne sans avoir à rendre de compte par son entremise. Amin, bijahi khatamin nabiyyin sallallahu alayhi wa sallam. Aiguille de feu. Si seulement nous prenions l'habitude de protéger ce que nous regardons. La punition pour avoir regardé des choses que l'on n'est pas censé regarder est insupportable. Allama ibn Jawzi rahmatullah alayhi rapporte « Celui qui ne protège pas ses yeux d'un non-mahram, on lui mettra des aiguilles de feu dans les yeux le jour du jugement. » Protéger son regard. L'imam Muhammad Ghazali rahmatullah alayhi rapporte que quelqu'un dit à Junaid Baghdadi rahmatullah alayhi « Je veux prendre l'habitude de baisser mon regard. Dites-moi comment je peux me faciliter la tâche. » Il répondit « Garde à l'esprit qu'avant même que mes yeux ne regardent quelqu'un, il y a un observateur, c'est-à-dire Allah, qui me regarde. Qu'Allah Azza wa Jal leur fasse miséricorde et qu'il nous pardonne sans avoir à rendre de compte par leur entremise. » Amin, bijahi khatamin nabijin, sallallahu alayhi wa sallam. Méthode d'abaissement du regard. On rapporte que Hassan Abu Sinan, rahmatullah alayh, quitta sa maison pour accomplir la prière de Eid. Lorsqu'il revint, sa femme lui demanda « Combien de femmes as-tu vues aujourd'hui ?» Mais il resta silencieux. Sa femme insista pour obtenir une réponse. Il dit alors « Depuis que j'ai quitté la maison et que je suis revenu à toi, je n'ai regardé que mes orteils. » Subhanallah. Les pieux serviteurs d'Allah Azza wa Jal s'abstenaient de regarder inutilement autour d'eux de peur de regarder accidentellement quelque chose d'illicite, surtout lorsqu'ils se trouvaient dans une foule. Dawood Ta'i rahmatullah alayh a dit « Les gens pieux n'aimaient pas regarder inutilement ici et là. Qu'Allah Azza wa Jal leur fasse miséricorde et nous pardonne sans avoir à rendre de compte par leur entremise. Amin, bijahi khatamin nabijin sallallahu alayhi wa sallam. » Quelqu'un regarde-t-il? Sayyidina Farqad Sabahi rahmatullah alayh a dit « Lorsqu'un hypocrite sait que personne ne le regarde, il commet un péché. Il est malheureux qu'il prenne en considération le fait que les gens ne le regardent pas, mais il ne prend pas en considération le fait qu'Allah le regarde. » Sallu ala al-Habib, sallallahu ala Muhammad.